Avec bien sûr Marc Fauvel, bonjour.
Bonjour à tous. À la une ce matin, impulsif, imprévisible, complètement paranoïaque, bienvenue à la Maison Blanche version Donald Trump. C'est un livre enquête qui décrit les coulisses de la première année du président américain. On le découvre notamment dévorant chaque soir des cheeseburgers tout en regardant la télé. Petites et grandes histoires et récits de Grégory Philips dans un instant. Quand Emmanuel Macron lance la chasse aux fake news, il veut une loi pour lutter contre les fausses nouvelles durant les campagnes électorales. Voilà qui promet quelques débats en perspective. Le vent, le feu et la glace, plusieurs incendies cette nuit en Corse sous l'effet de la tempête Éléonore, prudence dans les massifs alpins, le risque d'avalanche est au maximum. Quant au vent, il devrait se calmer enfin aujourd'hui. À 8h20, votre invité, Nicolas, vous recevez ce matin la ministre du Travail.
Muriel Pénicaud, avec laquelle vous pourrez dialoguer vers 8h40. Vos questions dès maintenant, 01 45 24 7000.
Dans ce journal également qui a dit que les entreprises françaises se faisaient racheter les unes après les autres, c'est même l'inverse. Année record en 2017. À quoi ressemblera le futur service national ? Finalement, il ne durera qu'une petite semaine et il n'aurait plus grand-chose de militaire. Enfin, la mort d'un découvreur de talent, c'est lui qui avait lancé notamment Emmanuel Carrère ou Marie Darieussecq en librairie. Le fondateur des éditions POL, Paul Otchakowski-Laurence, vient de mourir. Hommage à la fin de ce journal. Le livre ne sortira que la semaine prochaine, mais il provoque déjà la fureur de la Maison Blanche, signé d'un journaliste réputé, fruit de près de 200 entretiens, y compris d'ailleurs avec le président américain. On y découvre les coulisses de la première année de la présidence Trump, son impréparation également et une paranoïa aiguë. Bonjour Grégory Philips.
Bonjour.
Correspondant de France Inter à Washington. Vous avez lu les bonnes feuilles de ce livre brûlot. Cela commence dès le soir de l'élection, le 8 novembre 2016.
Oui, et à ce moment-là, Donald Trump a l'air d'un type qui vient de croiser un fantôme, écrit Michael Wolff. Jusqu'au dernier moment, il ne pensait pas l'emporter. Melania pleure et ce ne sont pas des larmes de joie. Et puis ensuite, le journaliste raconte les premiers jours à la Maison Blanche d'un président imprévisible, impulsif. Quand un conseiller vient lui expliquer la Constitution américaine, il décroche dès le 4e amendement. On y découvre un président qui regarde beaucoup la télévision, ça on le savait, mais notamment le soir à 18h30 au dîner, avec un cheese burger qu'on va chercher dans un restaurant McDonald's de la ville, choisi au hasard parce que l'une des phobies de Trump, c'est de se faire empoisonner. Ce livre décrit aussi avec minutie les luttes de pouvoir entre d'un côté Steve Bannon, l'idéologue, et le couple Jared Kushner-Ivanka Trump. La fille adorée raconte à qui veut l'entendre dans les couloirs de la Maison Blanche qu'elle sera un jour la première femme présidente des États-Unis.
Grégory, vous parliez à l'instant de Steve Bannon, un ex-conseiller du président américain, aujourd'hui fâché avec lui. Le moins qu'on puisse dire, c'est qu'il se lâche dans ce livre.
C'est vrai, très critique notamment vis-à-vis de la famille du président et de son fils Donald Trump Jr. qui est mouillé dans l'enquête russe. Les contacts avec Moscou, c'était une vraie connerie, dit Bannon, qui profite de ce livre pour régler des comptes. D'ailleurs, la réaction de Donald Trump n'a pas tardé hier par voie de communiqué. Quand je l'ai viré, Bannon n'a pas seulement perdu son emploi, mais aussi la raison. Quant à la porte-parole de la Maison Blanche, elle s'est dit hier furieuse de l'apparition de ce livre, qu'elle a qualifié de fiction du même niveau que les tabloïds.
Grégory Philips à Washington, fake news, répond donc une nouvelle fois la Maison Blanche. C'est presque pavlovien à chaque attaque contre le président. On se souvient d'ailleurs qu'après son élection, Donald Trump avait crié à la triche électorale. Il affirmait avoir les preuves qu'au moins 3 millions de bulletins avaient été comptés à tort pour son adversaire Hillary Clinton. Il avait même lancé une commission sur ces fraudes électorales supposées. Changement de pied hier soir. Le président américain annonce avoir dissous cette commission. L'enquête est terminée.
Et en France aussi, c'est la période de la chasse aux fake news.
Pardon pour l'anglicisme, mais c'est bien l'expression qu'a utilisée hier soir Emmanuel Macron. Il promet une loi pour s'attaquer aux fausses nouvelles qui pullulent sur les réseaux sociaux. Elle s'appliquerait lors des campagnes électorales avec la possibilité de saisir un juge, à lui de trancher sur la véracité des faits, à lui aussi de bloquer éventuellement l'accès au site, irréalisable et surtout dangereux, estime Arthur Messot. Il est membre de la Quadrature du Net, association qui défend les libertés sur Internet.
C'est tout à fait nouveau de voir qu'un juge doit distinguer le vrai du faux et pouvoir censurer sur cette seule base. Donc techniquement c'est possible, mais en termes idéologique ou juste logique, opposer une censure sur la vérité, là c'est là où la chose semble irréalisable ou complètement excessive ou sujet à un nombre d'abus infini. La question qui est fondamentale ici, c'est qui est-ce qui établit la vérité? Là, Macron nous dit que c'est un juge qui va établir la vérité. Donc lutter contre les fake news, ça veut dire donner le pouvoir à un juge de dire ce qui est autorisé ou non dans un débat selon ses propres critères à lui de vérité.
Témoignage recueilli par Julie Smul. Ça n'arrangera sans doute pas l'image de président des riches que certains lui collent à la peau. Emmanuel Macron s'affichera bien au forum de Davos. À la fin du mois en Suisse, il y prononcera un discours devant le gratin mondial de l'économie et de la finance. Le PS, très peu pour elle, Najat Vallaud-Belkacem ne briguera pas la direction du parti lors du congrès du mois d'avril. Elle le dit ce matin dans l'Obs. Elle préfère se consacrer, dit-elle, à sa nouvelle mission de directrice de collection chez Fayard. Du vent, des inondations, des incendies et des risques d'avalanche. Voilà donc pour le cocktail météo du jour. Dans la foulée de la tempête Eleanor, c'est désormais sur la Corse qu'elle a soufflé cette nuit, attisant plusieurs incendies, parfois provoqués par des chutes de pylônes électriques. Ils ont brûlé 1500 hectares, faisant 3 blessés. Plus au nord, le vent a soufflé jusqu'à 250 km/h sur certains massifs des Alpes, provoquant la mort d'un skieur hier matin tué par la chute d'un arbre en Haute-Savoie. Et aujourd'hui, ce sont les avalanches qui menacent, risque maximum 5 sur 5, prévient Jean-Louis Eberhardt. Il travaille au SDIS, le service départemental d'incendie et de secours de Savoie.
Le niveau 5, c'est un niveau qui est très rarement atteint. On l'utilise très rarement et donc là, on passe en risque très fort. On va avoir des cumuls d'avalanches qui vont être généralement beaucoup plus importants, des probabilités d'avalanches également beaucoup plus importantes, et surtout un risque généralisé d'avalanches qui risquent d'emporter des routes ou des habitations. On attend de nombreuses et grosses avalanches qui peuvent se produire spontanément, y compris en terrain un peu raide. Donc c'est pendant ces périodes-là qu'il y a des avalanches qu'on n'a plus du tout l'habitude de voir qui risquent de se produire. Parce que toutes ces dernières années, la mémoire humaine, elle est assez sélective. Et si au bout de 3, 4, 5 ans, on n'a pas vu d'avalanche, on se croit un petit peu prémunis, quoi. Et donc là, on risque de retrouver des avalanches comme il y avait eu il y a quelques années, quoi.
Et ce matin, 21 départements restent en alerte. Les prévisions complètes, c'est à la fin de ce journal. Aurait-il rétréci au lavage? En tout cas, le futur service national sera sans doute moins ambitieux qu'annoncé pendant la campagne présidentielle. À l'époque, Emmanuel Macron avait promis un service militaire obligatoire d'une durée d'un mois. Mais les députés qui planchent sur le sujet ont réduit la voilure. Information de nos confrères de France Info, il ne durerait finalement qu'une toute petite semaine et n'aurait plus grand-chose de militaire. Mathieu Mondoloni.
Eh bien déjà, il ne s'adresserait pas aux jeunes de 18 ans, mais à tous les élèves de 10 à 16 ans. Et ce ne serait pas un service militaire d'un mois, mais plutôt un parcours citoyen obligatoire d'une semaine par an, ce qui aurait l'avantage d'être beaucoup moins coûteux pour l'État. Ce parcours se déroulerait en 3 étapes dans les établissements scolaires et serait encadré par des enseignants et des volontaires du service civique. Première étape chaque année au collège, avec une semaine consacrée à la défense et à la sécurité, mais aussi aux gestes qui sauvent, aux droits et aux devoirs ou à la mémoire. Deuxième étape en seconde, cette fois, une semaine d'immersion pour favoriser la mixité sociale et les valeurs fraternelles. Ce serait un peu comme le stage de troisième, mais dans des associations qui viennent en aide aux personnes âgées ou aux sans-abri, par exemple. Enfin, troisième étape, la délivrance d'un passeport citoyen en fin de seconde. Un passeport qui pourrait permettre à chaque jeune de prolonger son engagement après ses 16 ans s'il le souhaite et qui lui offrirait certaines facilités, comme entre autres un accès simplifié et moins cher au permis de conduire.
France Inter, 8h08, il le réclamait ces derniers jours.
Les syndicats de policiers seront bien reçus par le ministre de l'Intérieur Gérard Collomb. Ce sera la semaine prochaine, mercredi, après 2 agressions en quelques heures. La dernière en date, lundi, en Seine-Saint-Denis, c'était lors d'un contrôle d'identité à Aulnay-sous-Bois. 3 jeunes vont comparaître aujourd'hui dans cette affaire. Ils nient toute participation à cette agression. La justice encore, mais celle du quotidien. On connaît ses longueurs parfois quand il s'agit par exemple de régler un divorce ou une situation de surendettement. Le gouvernement a promis de s'y attaquer cette année. C'est l'un des 5 chantiers que l'on passe en revue cette semaine. Comment simplifier les procédures, les pistes avec Charlotte Piret.
Plus de conciliation, de médiation, un meilleur accès à la justice pour les citoyens. Voilà les grandes lignes de la simplification de la procédure civile voulue par le gouvernement. Et à Paris, le nouveau palais de justice des Batignolles est là pour ça en quelque sorte. Car Renzo Piano, son architecte, l'a d'abord voulu ouvert à tous.
La première grande différence, c'est que cette salle n'est pas perdue. Elle est au niveau de la rue. On ne monte pas les marches pour atteindre la justice. Elle est d'abord à plat au niveau de la rue. Ça me semble important.
Plus concrètement, cette simplification de la procédure civile passe aussi par des tables rondes dans certaines salles d'audience pour faciliter la médiation ou l'installation de 38 boxes d'accueil personnalisé du justiciable, par exemple. Jean-Michel Ayat, président du tribunal de grande instance de Paris.
On souhaite avoir un accueil pour le justiciable haut de gamme. Et puis dans les domaines où il faut prendre du temps, on aura des accueils spécialisés. C'est le cas pour le service des tutelles, des permanences gratuites et confidentielles en matière de logement, en matière de famille, de surendettement. Donc vous voyez, c'est quand même une conception complètement nouvelle.
Et la nouveauté passera aussi par le développement du numérique, voire même, pourquoi pas, jusqu'au procès dématérialisé. Cela fait en tout cas partie des pistes de travail.
Les chantiers de la justice, suite et fin de cette série, demain matin à la même heure ou dès maintenant sur franceinter.fr.
8h10, c'est un nouveau feu qui passe au vert pour l'économie française.
Fini l'époque où les entreprises tricolores se faisaient croquer les unes après les autres. La tendance s'est inversée et l'année 2007 aura même été celle de tous les records. Les entreprises françaises n'ont jamais été aussi nombreuses à racheter des concurrentes étrangères. C'est un bond de 50% en un an. Delphine Simon.
De l'immobilier au luxe, en passant par la distribution ou l'industrie, 10 ans qu'on n'avait pas vu ça. Les champions français partent à l'assaut des fleurons étrangers. PSA avec Opel, Essilor ou Total, le volume de ces opérations de rachat ou de vente à l'étranger a presque triplé. Dans les secteurs de pointe, les industriels ont besoin d'améliorer leur technologie, leur capacité de production. Philippe Wächter, chef économiste chez Natixis.
Les entreprises françaises, dans un passé récent, n'ont pas suffisamment investies par elles-mêmes pour avoir des marges suffisantes pour répondre à la demande. Donc elles sont obligées de faire des fusions-acquisitions pour acquérir des capacités et satisfaire à la demande.
Avec la croissance qui s'envole, 1,9%, les entreprises ont besoin de s'armer pour affronter la montée en gamme des produits chinois. Christopher Dembick, analyste chez Saxo Bank.
Les entreprises européennes ont parfaitement compris que les Chinois montent très rapidement en gamme, en technologie de pointe. Et donc finalement, il y a un retard à un certain stade qui pourrait se mettre en place de la part des Européens s'ils ne prennent pas les mesures efficaces.
Même si le coût des rachats est astronomique, les taux d'intérêt sont bas et ils vont le rester selon lui, ce qui permet de s'endetter à bon compte. La dynamique pourrait donc se poursuivre cette année.
Delphine Simon pour les derniers chiffres 2017. Est-ce la fin des manifestations en Iran? En tout cas, les cortèges semblent marquer le pas. La répression n'y est sans doute pas pour rien. Les gardiens de la révolution, l'armée d'élite du pouvoir, annoncent que la contestation est désormais terminée. D'après eux, seuls 15 000 personnes ont pris part aux manifestations dans l'ensemble du pays.
8h12, trois lettres en deuil ce matin dans le monde de l'édition.
Les éditions POL ont perdu leur fondateur, Paul Otchakowski-Laurent. C'est lui qui avait lancé cette maison d'édition en 1983, lui offrant ses initiales. Bonjour Jacqueline Pétrose.
Bonjour.
Ce qu'il avait surtout offert au public et aux lecteurs, c'est d'avoir découvert quelques-uns des plus grands écrivains d'aujourd'hui.
Alors le catalogue, comme on dit, est brillant et souvent audacieux, comme avec Marie Dariussec et son truisme. Mais POL, c'est aussi Emmanuel Carrère, Mathieu Lindon, Marine Diaye, Martin Vinclair, Pascal Quignard, Camille Laurence, Atik Raïmi Goncourt en 2008 pour Singer Sabour et Nathalie Azoulay, une pléiade d'auteurs à l'écriture exigeante qui avait trouvé son public. Grand, mince, un peu voûté, Paul Otchakowski-Laurent était toujours un peu en retrait. Chacun se souvient de son sourire de timide, mais en même temps de sa détermination quand il s'agissait de sa passion, la littérature et les auteurs. En 77, travaillant chez Hachette, il crée sa première collection qui publie dès 78, excusez du peu, La vie mode d'emploi de Georges Perec. Paul Otchakowski-Laurent avait en décembre dernier sorti un documentaire autobiographique, éditeur, et le 4 décembre, dans L'heure bleue de Laura Adler, il racontait combien Perec avait été déterminant.
Les premiers exemplaires sont arrivés, j'avais apporté les deux premiers exemplaires qui étaient arrivés en avant-coureur, en quelque sorte, à Georges Perec et à sa compagne Catherine Binet, qui m'attendait à la closerie des Lilas. Le livre était dédié à la mémoire de Raymond Queneau. Et il avait pris un des deux exemplaires, pardon, et il m'avait dédicacé après la page à la mémoire de Raymond Queneau et à l'avenir de POL. C'était vraiment, ça me porte toujours cette dédicace.
Et en 85, en tant désormais qu'éditeur, il publie La douleur de Marguerite Duras, son plus grand et long succès d'édition. La couverture blanche, un peu gaufrée, avec ses trois initiales bleues, P-O-L, est pour les lecteurs une référence d'excellence.
Merci Jacqueline Pétrose. Paul Otchakowski-Laurent avait 73 ans, il est mort en Guadeloupe dans un accident de la route. Un mot du Festival de Cannes, c'est l'actrice australienne Cate Blanchett qui présidera le jury en mai prochain, annonce cette nuit des organisateurs. Elle sera seulement la 12e femme présidente en 71 éditions du festival. Enfin, quelles seront les musiques qui résonneront cette année dans vos oreilles? Impossible d'être exhaustif, bien sûr, mais voici tout de même une petite sélection des albums à venir dans la boule de cristal musicale. C'est Mathieu Culeron.
Le retour du groupe américain MGMT est particulièrement attendu. Il y a 3 ans, Andrew et Ben annonçaient leur 4e album pour 2016. Ce sera finalement pour cette année, même si la date reste à préciser. Le duo originaire de Brooklyn, connu pour ses hymnes pop psyché, a déjà mis à disposition un nouveau morceau qui devrait donner son nom à ce nouveau disque, Little Dark Age. Les Écossais de Franz Ferdinand, eux aussi, reviennent sur le devant de la scène. Après le départ de leur guitariste Nick McCarthy, il était important de se relancer pour le chanteur Alex Capranos. Leur 5e album Always Ascending sortira le 9 février prochain. Le groupe qui a fait appel au producteur français Philippe Zdar du groupe Cassius pour produire ce nouveau disque et ce dernier single pensé pour les pistes de danse. Et votre nom boudeux, je fus comme un baiser. Côté français, le groupe Feu Chatterton sortira son 2e album le 9 mars. Le quintet parisien, qui pour faire patienter ses fans, a mis en ligne un nouveau titre intitulé sobrement « L'ivresse ». L'année 2018 qui sera aussi marquée par le retour d'Arctic Monkeys, de Jack White et de la sortie de 2 albums de Dominica, dont un premier extrait sera dévoilé la semaine prochaine sur France Inter.
Et avec un peu de chance, on en reparlera ici même, Nicolas, on est les Vénards.
Avec grand plaisir. Merci Marc Fauvel.